Fraîchement naturalisé, Guillaume Apollinaire va participer à la Grande Guerre dans une unité d'artillerie. Il sera d'ailleurs blessé à la tête. Ici, il écrit à son ami et lui décrit sa période de formation avant de monter au front. Voici la première des lettres de cette correspondance.
Mon cher André Dupont, merci de votre carte. Votre douce tartine est mère de ma tarte. J'ai tant aimé les arts que je suis artilleur. Il a fait bien mauvais, aujourd'hui c'est meilleur. J'ai, sur un grand cheval, fait 6 heures de route. Genoux en sang, mais que voulez-vous que ça foute? Tant d'hommes sur le front meurent en ce moment, que c'est un vrai plaisir de saigner seulement. L'artillerie est un art qui mesure les angles, et l'équitation de bien serrer les sangles. L'art du canon est l'art de tout bien mesurer. Avec l'astronomie, on peut le comparer. Voilà tout le secret de la guerre où nous sommes. Le reste est dans la joie et la vertu des hommes. Je pense à tout cela sur la route en mon fort. Mon cher André Dupont, je vous embrasse fort. Il vente, il fait un froid de loup, la nuit est claire. Écrivez-moi souvent. Lettre de Guillaume Apollinaire à André Dupont.
Nous allons vous présenter la vie d'Apollinaire. Quand et où est-il né ?
Il est né le 25 août 1880 à Rome.
De quelle origine ?
Il était polonais par sa mère et italien par son père présumé.
Quel est son véritable nom ?
Wilhelm Apollinaire de Kostrowitzki.
En 1887, la mère d'Apollinaire décide de déménager avec ses deux fils et ils vont habiter à Monaco.
Apollinaire est un brillant élève au lycée Saint-Charles de Monaco qu'il fréquente jusqu'en 1895.
En 1897, il fréquente un autre lycée, celui de Nice, mais malheureusement, il échoue au baccalauréat.
En 1899, Apollinaire et son frère séjournent en Belgique pendant 3 mois. À Stavelot, Apollinaire connaît ses premières déceptions amoureuses auprès de Maria Dubois, appelée Mareille dans ses poèmes.
En 1900, Apollinaire vit dans la misère. Pour survivre, il trouve des petits boulots. En 1901, il est introduit auprès de Madame de Milo, allemande, veuve d'un baron normand, et est engagé comme précepteur de français de sa fille. Ce sera son premier travail.
En 1901, Apollinaire tombe amoureux de la gouvernante anglaise de son élève. Quel est le nom de cette jeune fille ?
Annie Pleden.
Malheureusement, la jeune femme repousse ses avances et Apollinaire compose la chanson du mal-aimé.
Quel pays Apollinaire découvre-t-il en 1902 ?
Il découvre l'Allemagne, l'Autriche, la République tchèque et la Rhénanie.
En 1904-1905, Apollinaire rencontre 4 artistes peintres. Lesquels ?
Derain, Flaminck, Max Jacob et Picasso qui deviendra son ami.
La rencontre avec ces artistes débouche sur l'élaboration d'une théorie artistique nouvelle. Laquelle ?
Le cubisme.
Quels sont les 2 lieux célèbres de ralliement des jeunes artistes de l'époque ?
Les bords de Seine, les cafés.
Il devient même critique d'art, Apollinaire. En 1907, celui-ci tombe amoureux d'une artiste peintre. Comment s'appelle-t-elle ?
Marie-Laurencin. Il vivra même avec elle jusqu'en 1912.
En 1914, Apollinaire mêle le dessin et l'écriture dans ses premiers calligrammes.
En 1916, Apollinaire est naturalisé français, se porte volontaire pour le front. Là-bas, que lui arrive-t-il ?
Il reste le blessé à la tête passée immortalisé par Picasso.
En quelle année décède Apollinaire ? Quelle est la cause de sa mort ?
Il meurt en 1918 de la grippe espagnole.
Apollinaire, grand poète, apatride, patriote, a aimé la guerre. Ah Dieu, que la guerre est jolie !
Mais il l'a aussi détesté. Si tu voyais ce pays, ces trous à hommes partout, partout. On en a la nausée, les boyaux, les trous d'obus, les débris, projectiles et les cimetières.
À la guerre, on ne peut guère trouver où placer son cœur. Et j'avais du vague à l'âme de vivre ainsi sans petite femme. Quand l'autre semaine, j'eus la veine d'être nommé mitrailleur, ma mitrailleuse au bonheur devint pour moi l'âme sœur. Quand elle chante à sa manière, ta 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 plein d'adresse, je la graisse, je la stique et je la polie, de sa culasse jolie à sa petite gueule chérie. très habile, je la défile et tendrement je lui dis, jusqu'au bout restons unis pour le salut du pays. Quand elle chante à sa manière, ta 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 terre, ah que son refrain m'enchante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma glorieuse, ma petite Mimi, ma mitrailleuse. Rosalie me fait les 12 yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Si les boches nous approchent, nous commençons le concert. Après un bon démarrage, je précipite le fauchage. Comme des mouches, je vous couche tous les soldats du Kaiser, le nez sur nos fils de fer et les quatre fers en l'air. Quand elle chante à sa manière, ta 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 ta, ah que son refrain m'enchante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma glorieuse, ma petite Mimi, ma mitrailleuse. Rosalie fait les 12 yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Mais tout passe et tout lasse, même la guerre et l'un de ses jours, ou bien l'une de ses années, nous la verrons terminée. Alors vite, ma petite, glorieuse, oh mes amours, nous devrons à notre tour nous séparer pour toujours. Après une salve dernière, ta 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 ta, en te voyant endormie, je te dirai, chère amie, fais dodo ma glorieuse, ma petite Mimi, ma mitrailleuse. Et des pleurs mouilleront mes yeux quand je te ferai mes adieux.
Jacques Roman, caporal au 275e régiment d'infanterie, combat depuis plusieurs semaines en Meurthe-et-Moselle, dans le secteur de Fliret. Le 13 décembre, il participe à une attaque massive contre les lignes allemandes. Son unité subit de pertes terribles pour un gain de terrain très limité. Par ailleurs, le froid et l'humidité provoquent une multiplication de pieds gelés. Le journal de marche et opération de son unité parle de 200 cas, dont 120 soldats évacués. La lettre de Jacques évoque la violence des combats sans aucune censure, alors qu'il s'adresse à ses parents. Elle laisse aussi apparaître une véritable dépression. Jacques est victime du cafard, état dépressif qui touche de nombreux soldats.
28 décembre 1914. Mon cher papa et ma chère maman, je peux enfin vous écrire un peu plus largement et vous donner des détails sur l'attaque que nous avons faite le 13. Ce que j'ai vu ce jour et ce que nous avons enduré les jours suivants passe tout ce que l'on peut imaginer d'horrible. Comme je vous l'ai dit, nous nous sommes avancés contre les tranchées allemandes que l'artillerie bombardait depuis 24 heures. En y arrivant, des tirailleurs retranchés derrière des cadavres ou abrités dans des trous d'obus nous ont reçus par un feu nourri mais qui n'a pourtant pas arrêté notre élan. À quelques mètres des tranchées, nous avons voulu ouvrir le feu sur eux, car des réserves venaient constamment les renforcer. Nos fusils, pleins de boue, nous en étions couverts d'ailleurs, ne fonctionnaient pas pour la plupart. Il a fallu se précipiter sur eux à coups de baïonnette, à coups de crosse, et même avec nos outils, pelles, pioches, hachettes, car nous étions souvent trop près, à commencer une lutte effroyable. Un homme à côté de moi a tué successivement 3 boches. J'ai reçu un coup de tête dans le bas-ventre qui m'a fait tomber sur un Allemand dont j'ai piétiné la figure à coups de talon et achevé à coups de crosse. Je reçois en même temps une balle dans le haut de mon couvre-pied que je portais en sautoir. Puis plus rien, ceux qui ne sont pas morts ont fui. Il n'y avait pas une demi-heure que nous étions installés, les Allemands revenaient par un boyau que nous avions négligé de garder car il était plein d'eau. En une seconde, ils installent une mitrailleuse et prennent la tranchée en enfilade. Nous nous précipitons sur eux, ils détalent. Mais tout cela n'est rien en comparaison de ce qui a suivi. Les Allemands ont essayé 2 contre-attaques qui, parties de trop loin, ont été arrêtées par le 75. Il fallait voir ça. Les balles le chauffaient comme des murs par un ressort et tombaient tous ensemble. Et nous, pendant 9 jours, nous sommes restés dans une boue glacée rougie de sang. En somme, 1 km gagné, 437 soldats tués ou blessés sur 1800, 11 officiers tués ou blessés. Puis une quantité de pieds gelés dont ce pauvre Belon. Ceux qui ont voulu résister au froid plus longtemps, comme un sergent de ma section, sont dans un état si grave qu'on sera probablement obligé de leur couper les pieds.
Pour moi, je me porte bien, mais je commence à perdre l'assurance de ramener ma peau entière et je trouve que c'est acheter le terrain bien cher. Nous avons laissé la tranchée, qui est occupée maintenant par le 277e régiment d'infanterie. Elle est à 40 mètres des Boches et on les entend la nuit nous appeler camarades. On ne répond que par des coups de fusil. Le lieutenant-colonel Rousson a pleuré de voir son régiment dans un pareil état. J'espère que l'on va maintenant nous donner un peu de repos. Je vous souhaite à tous une très bonne année et je vous embrasse bien. Jacques Roman.
La marraine de guerre est le premier roman écrit par Catherine Cuenca, jeune auteur français. Cela raconte l'histoire d'Étienne, un jeune soldat mobilisé depuis 2 ans qui a jusque-là survécu au combat qu'il a mené durant la Grande Guerre. Mais pour lui, cela n'a plus aucun sens, car il a vu beaucoup de ses camarades tomber et il a participé à tant d'attaques inutiles. Son unique réconfort est la correspondance qu'il entretient avec sa marraine de guerre, Marie-Pierre, même si ses camarades se moquent de lui. Elle seule lui permet de supporter la vie difficile des tranchées. Elle seule lui envoie des vivres et de chaleureuses lettres qui l'aident à garder confiance. Dans la journée, Étienne n'est plus qu'un soldat, lançant à l'assaut des tranchées ennemies. Mais le soir, il redevient un homme, qui pleure en silence, au souvenir de tant d'horreurs. Dans les lettres qu'il envoie à sa marraine, Étienne se confie de plus en plus. À l'occasion d'une permission chez sa tante, du côté de Clermont-Ferrand, Étienne se décide, après beaucoup d'hésitation, à se rendre chez sa marraine, qui reste pour lui une inconnue. Il arrive, enfin, dans son village, à Saint-Étienne, et demande son chemin à 2 femmes qui discutent. L'une d'elles se nomme Marie-Pierre. Cette coïncidence leur permet de faire connaissance. La marraine de guerre reçoit Étienne chez elle, très chaleureusement. Et quand pour lui le moment est venu de partir, tous deux promettent de se revoir. À son retour sur le front, une terrible expérience attend Étienne. Les hommes de son bataillon refusent d'obéir quand on leur ordonne d'attaquer. Finalement, 5 d'entre eux sont fusillés, pour l'exemple. Étienne souhaite écrire sa colère à Marie-Pierre, ne le fait pas, à cause de la censure du courrier. Cependant, dans leurs lettres, ils ne se cachent plus leurs sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. mais les derniers mois de guerre sont très difficiles. Pendant un assaut, Étienne est gravement touché à la jambe et agonise plusieurs heures, avant que des brancardiers ne l'évacuent vers un hôpital de campagne. Pour Étienne, la guerre est désormais bien finie. Une nouvelle vie l'attend aux côtés de sa marraine de guerre.
Un tirailleur en enfer, par Yves Pingoli. Tierno est un jeune Africain originaire de Mamou, en Guinée. Il doit partir pour Dakar afin de poursuivre ses études. À Conakry, il fait la connaissance de Aboubakar, un jeune homme qui, comme lui, doit poursuivre ses études à Dakar. Mais arrivé là-bas, ils sont débarqués de force sur un navire à destination de la France. Nous sommes en 1915 et la Grande Guerre fait rage en Europe. Bon gré mal gré, les deux jeunes Africains acceptent leur sort et sont débarqués, quelques jours plus tard, à Saint-Raphaël avec plein d'autres Africains de leur âge. Désormais, ils sont des tirailleurs sénégalais. Au Kangalieni, où ils suivent une formation militaire, les deux Africains sont vite remarqués car, comme ils sont tous allés à l'école, ils parlent très bien le français. Après 5 mois d'entraînement, ils sont prêts pour partir au front. Nous sommes en février 1916. Le bataillon prend la direction des tranchées de Verdun. Et Tierno a été promu caporal grâce à son instruction. Le lendemain, c'est le baptême du feu. Les tirailleurs sortent des tranchées avec leurs machettes et leurs grenades, mais les mitrailleuses allemandes font un carnage. Tierno et Aboubakar sont sains et saufs, mais cette fois-ci, ils comprennent pour de bon dans quel enfer ils sont tombés. De retour au cantonnement, Tierno trouve le temps d'écrire à son père de la guerre et de ses absurdités. À sa grande surprise, il est promu sergent et décoré de la croix de guerre pour sa bravoure. Le soir même, le bataillon de tirailleurs remonte en ligne. Une nouvelle fois, c'est un massacre. Tierno est tout d'abord blessé à la main par une balle, puis à l'épaule par des éclats d'obus. Perdu sur le No Man's Land, il rampe parmi les cadavres et les blessés. Dans un trou d'obus, il se retrouve avec un soldat agonisant. Et une fois mort, Tierno fouille ses poches. Il y découvre des photos de famille et des lettres, dernière trace de sa vie. Plus tard, il est évacué dans un hôpital de campagne. Là, il retrouve miraculeusement son ami Aboubakar, moins blessé que lui, et va retourner au combat, tandis que Tierno va profiter d'une période de convalescence. En arrivant, il apprend que la mort d'Aboubakar est survenue quelques jours plus tard. À la faveur des nombreuses attaques de l'été et de l'automne, tous les secteurs de Verdun est repris aux Allemands. Tierno va ensuite poursuivre la guerre dans d'autres secteurs du front, avec ses tirailleurs sénégalais, jusqu'en 1918. Après l'armistice, il se rend à Paris, et Tierno va trouver la famille du soldat mort dans un trou d'obus pour remettre aux parents les dernières lettres à leur fils. En 1919, il rentre enfin à Mamou, en Guinée, où il épouse sa fiancée d'avant-guerre, Néné Galé.
Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerres notoires, si j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homer, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Est-ce à dire que je méprise les nobles guerres de jadis, que je me soucie comme d'une cerise de celle de 70? Au contraire, je la révère et lui donne un satisfait. Même en colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Même en colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Je sais que les guerriers de Sparte plantaient pas leurs épées dans l'eau, que les grognards de Bonaparte tiraient pas leur poudre aux moineaux. Leurs faits d'armes sont légendaires, au garde à vous je les félicite. Même en colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Même en colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Bien sûr, celle de l'an 40 ne m'a pas tout à fait déçu. Elle fut longue et massacrante, et je ne crache pas dessus. Mais à mon sens, elle ne vaut guère, guère plus qu'un premier accessite. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mon but n'est pas de chercher noise aux guérillas, non, fichtre non. Guerre sainte, guerre sournoise, qui n'ose pas dire leur nom. Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. du fond de son sac à malice. Mars va sans doute à l'occasion en sortir une vraie délice qui me fera grosse impression. En attendant, je persévère à dire que ma guerre favorite, c'est le mon colon que je voudrais faire. C'est la guerre de 14-18. C'est le mon colon que je voudrais faire. C'est la guerre de 14-18.